Les infos à Washington.
Omicron à Nitalani, 16h en temps universel, 17h à Brazzaville en République du Congo. Bienvenue au journal. Les épidémies de fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo sont sous contrôle. L'affirmation vient ce mardi de l'Organisation mondiale de la santé. Selon la directrice du département des maladies épidémiques et pandémiques de l'OMS, Sylvie Brion, le risque d'une épidémie majeure est terminé. Cette bonne nouvelle est la conséquence des campagnes de vaccination massive lancées en Angola et en RDC en juillet dernier. Quelque 7 millions de personnes ont été vaccinées à Kinshasa en moins de 2 semaines. En Angola, pas moins de 15 millions de personnes, donc plus de 65% de la population ont été immunisées dans tout le pays. Aucun cas n'a été enregistré en Angola depuis le 23 juin et le dernier cas notifié en RDC remonte au 12 juillet selon Sylvie Brien. Toujours en RDC, l'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda en grève de la faim depuis la semaine dernière pour protester contre ses conditions de détention à la CPI a dit ses juges ce mardi qu'il était prêt à mourir. Donc ses juges ont dit ce mardi qu'il était prêt à mourir. Nathalie Barge.
Je n'ai pas la possibilité de voir mon épouse et mes enfants dans des conditions normales. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu tout espoir. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir, a déclaré Bosco Ntaganda dans une déclaration lue par son avocat. L'ex-rebelle congolais a également demandé à maître Stéphane Bourgeon de ne plus le représenter et de cesser toutes les actions en justice en son nom. Il a cessé de s'alimenter la semaine dernière pour protester contre les restrictions à ses appels téléphoniques et les droits de visite mis en place depuis 2014, après que les juges aient conclu qu'il essayait d'interférer avec les témoins. Ntaganda a participé aux audiences ce mardi via un lien web vidéo dans le centre de détention de la CPI après la conclusion d'un rapport médical ce matin concluant que son état de santé ne lui permettait pas d'être déplacé. Il fait face à 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant des attaques meurtrières à caractère ethnique en 2002 et 2003 dans l'Ituri en République démocratique du Congo.
C'était Nathalie Barge sur l'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda. En Afrique du Sud, les autorités ont interdit ce mardi l'entrée sur leur territoire à un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de boucliers de la communauté gay sud-africaine qui s'était mobilisée contre sa venue. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Toute la communauté gay sud-africaine s'est mobilisée contre la venue de Steven Anderson de la Faithful World Baptist Church qui était attendu ce week-end dans la nation arc-en-ciel où il comptait, je le cite, « conquérir des âmes ». L'annonce de sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 600 000 signatures. Réactions qui ont poussé le gouvernement à intervenir. Le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a annoncé que Steven Anderson, ainsi que les membres ou les proches de son église, sont interdits d'entrer sur le territoire sud-africain, ceci afin d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, autrement dit les LGBT, c'est ce qu'a précisé le ministre. L'Afrique du Sud, qui a légalisé le mariage gay en 2006, est un des pays les plus progressistes en matière de droits des LGBT. Steven Anderson doit se rendre prochainement au Botswana voisin, où l'homosexualité reste un crime.
Au Cameroun, les veuves et enfants de soldats morts dans la lutte contre Boko Haram affirment être négligés par leur gouvernement. Plus de 200 soldats sont morts dans la guerre, laissant des centaines de veuves et orphelins dans une situation financière précaire. Le gouvernement camerounais a souvent pourvu à leurs besoins, mais il souhaite davantage, pourquoi pas apprendre un métier. Dans notre journal Le Monde Aujourd'hui, notre grande édition de 18h temps universel, vous pourrez suivre le reportage de Moki Edwin Kinzeka à ce sujet. La police zimbabwéenne a interdit pour un mois dans les rues de la capitale Harare les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe prévues par l'opposition. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le directeur général de la police. Quelques heures avant l'annonce de cette interdiction, une coalition des partis d'opposition menée par le Mouvement pour le changement démocratique avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est agité par une fronde populaire contre le régime du président Mugabe, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1980.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président de Zambie, Edgar Lungu, a entamé ce mardi son mandat de 5 ans en exhortant le pays à l'unité nationale. L'appel a été aussitôt rejeté par son principal rival de l'opposition qui répète que son investiture était illégale et anticonstitutionnelle. Dans son discours, le président Edgar Lungu a répété sa volonté de faire de l'économie sa priorité alors que la croissance du pays a fortement ralenti ces dernières années en raison notamment de la chute des cours du cuivre, sa principale ressource. Edgar Lungu, âgé de 59 ans, a été réélu le 11 août dernier dès le premier tour du scrutin présidentiel d'une courte tête avec 50,3% des suffrages, devançant d'à peine 100 000 voix le chef du principal parti d'opposition Hakainde Hichilema, qui rejette depuis sa victoire en l'accusant de fraude. Aucune décision de justice n'a validé l'élection du président Lungu. Nous dérivons vers la loi de la jungle. La vérité, c'est que notre élection a été volée, c'est ce qu'a affirmé dans un communiqué l'opposant Hichilema, un homme d'affaires de 54 ans qui se présentait pour la 5e fois à la magistrature suprême. Au Gabon, suite aux violences post-électorales ayant fait plusieurs morts et de nombreux blessés, la société civile, par la voix du collectif Tournons la page, demande une enquête internationale. Écoutons le coordonnateur du collectif Tournons la page Gabon, Marc Ona Essangui.
Nous avons des parents qui viennent vers nous et qui sont à la recherche de leurs enfants. Beaucoup ont retrouvé leurs parents dans les maisons de pompes funèbres. D'autres sont toujours à la recherche et d'autres ont été emprisonnés. Donc, les chiffres avancés par le gouvernement sont excessivement en deçà de la réalité. Sur toutes les années du territoire, nous avoisinons la centaine de morts. Le soir même de l'assaut, les informations que nous avons eues, des témoignages, des éléments à l'intérieur du pouvoir et qui nous ont certifié qu'à l'infirmerie de la garde républicaine, 17 corps ont été déposés là-bas. 17 corps ont été déposés. Or, c'est la garde républicaine qui avait lancé l'assaut. À partir de cet instant, tous ces corps ont été déposés dans une morgue Kasebga. Et aujourd'hui, les parents sont en train, effectivement, d'aller retrouver leurs morts à Kasebga. Ça veut tout simplement dire que le nombre de morts soit annoncé par le pouvoir pendant l'assaut, ce nombre n'est pas conforme à la réalité.
Le rapport qui accuse l'élite politique et militaire du Soudan du Sud de s'être enrichie en profitant de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013 est de la foutaise absolue. C'est la réaction ce matin du gouvernement sud-soudanais. Le rapport a été publié hier par le groupe d'investigation The Sentry, dont l'acteur américain George Clooney est le cofondateur. D'après The Sentry, des familles des élites soudanaises vivent souvent à l'étranger dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars. Ils passent leurs vacances dans des hôtels 5 étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux. Le principal catalyseur de la guerre est en fait la compétition pour le contrôle des abondantes ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, c'est ce qu'affirme ce rapport. Mais pour le porte-parole de la présidence sud-soudanaise, le rapport est trompeur et motivé politiquement pour ternir l'image du président Salva Kiir et celle des généraux qui luttent en fait pour le bien du pays. L'ex-président du Congrès des députés brésiliens, Eduardo Cunha, à l'origine de la procédure de destitution controversée de l'ex-présidente Dilma Rousseff, a été destitué par ses collègues parlementaires hier lundi pour avoir nié l'existence de comptes bancaires lui appartenant à l'étranger. Une enquête judiciaire a permis de découvrir qu'il était titulaire d'au moins un compte bancaire secret sur lequel avait transité environ 5 millions de dollars d'origine suspecte. Dilma Rousseff accuse M. Cunha et son ancien vice-président Michel Temer d'avoir orchestré un coup d'État parlementaire à son encontre et elle continue de clamer son innocence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur notre site internet www.voaafrique.com et n'oubliez pas de visiter aussi notre site internet et de laisser des commentaires et continuer de rester à l'écoute de votre radio de tous les jours, La Voix de l'Amérique. Merci, je vous retrouve dans à peu près 50 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Info sur VOA Afrique.